fin des années 70, au début des années 80. En fait, l'idée, c'était, enfin, Moves, le titre d'avant, était vraiment un slow, hein, comme il y en avait beaucoup dans les albums du passé. Et là, vraiment, avec I Know, c'était un petit peu l'inverse. C'était aussi de redonner une touche énergisante électronique à mes morceaux, et bien plus deep aussi, bien plus rock, en fait, comme ce projet, en fait, est né, quoi.
Alors, on le disait, plusieurs singles de ce futur album Flashback FM ont maintenant été dévoilés. Évidemment, Got It Made, qui a été un énorme succès sur FG. Le projet commence à se dessiner de plus en plus. Est-ce que ce sera un projet ouvertement rétro? Et si oui, pourquoi cette orientation?
Alors déjà, c'est un vrai retour aux sources, dans le sens où moi, ça a toujours été la musique que j'ai écoutée auparavant. Je suis un grand fan des Pink Floyd, Alan Parsons, Ricky Ducati l'est aussi, et a ses propres influences américaines, enfin voilà, des morceaux cultes. Et l'idée, c'était vraiment de créer un pont entre avec de la French Touch et des techniques de production French Touch dont on a la recette, et d'avoir justement ces influences qui viennent directement des années 80, des morceaux ou des structures de morceaux qu'on retrouvait dans les albums de ces années-là, parce qu'en fait nous, ça nous plaisait vraiment, en fait, aussi de refaire découvrir cette musique à des personnes plus jeunes aussi, mais aussi de toucher aussi des personnes qui ont connu cette époque sans que nous on l'ait connu, parce que je suis né dans les années 90, donc ça c'est vraiment un mélange d'influences, et oui, en fait on a essayé de créer notre musique de cette manière-là.
Alors justement, pour cette ambiance et ces sonorités rétro, 13 années 80 sur certains singles, selon toi, d'où te viennent les inspirations? Je rappelle, tu nous le disais tout à l'heure, que tu n'étais pas né dans les années 80. Alors finalement, d'où viennent ces influences?
Ouais, disons que moi, j'ai toujours écouté, même si je suis pas né dans les années 80, j'ai beaucoup écouté de rock, en fait, déjà de cette époque-là. Donc je pense à Led Zeppelin, je pense au premier pas du disco, mais vraiment au tout départ, en fait, avant que les boîtes à rythme prennent trop de place, en fait, dans les musiques. En tout cas, après, c'est une question de goût. Et en fait, ouais, après, je pense que en ce moment, il y a aussi un petit retour en arrière qui s'entend. Alors j'espère faire partie de cette vague aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de revenir en arrière, mais en même temps de proposer quelque chose de nouveau. Donc en fait, moi, cet album, je l'ai un peu pensé comme l'après-numérique, en fait, un genre de retour vers le futur, on va dire, où on arrive à entendre quand même des sonorités organiques, mélangées bien sûr aux techniques HD d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, avec un son qui sonne fort, qui sonne beaucoup plus clair, beaucoup plus stéréo qu'avant. Alors, donc en fait, il y avait vraiment cette idée-là.
Alors pour finir, on avait envie, avec l'équipe de la rédaction, de te faire une petite interview rapide autour des œuvres cultes des années 80-90. Alors tu nous donnes à chaque fois ta préférence. Si tu ne connais pas, t'as le droit de l'avouer, justement, t'en voudras pas. MacGyver ou l'Agence Tourisque?
L'Agence Tourisque.
Madame est servie ou Cosby Show?
Oula, je connais pas.
Les Gremlins ou E.T.?
Ichi.
Ah, mais alors maintenant, ça va être vraiment les morceaux qui, selon toi, pourraient te servir d'influence pour tes prochaines productions un peu 80s, 90s. Wake Me Up de Wham ou Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper?
Ah, Cyndi Lauper, direct.
Autre exemple, Flashdance ou The Time of My Life du film Dirty Dancing?
C'est chaud là, j'aime les deux, mais on va dire The Time of My Life.
Allez, on finit avec du français. Plutôt L'Aventurier d'Indochine?
Ouais.
Ou Il jouait du piano debout de France Gall?
C'est la même époque, ça, ou parce que j'ai l'impression que c'est
80s,
pas...
ouais, les deux c'est 80s,
okay.
Ouais.
On va dire L'Aventurier.
Ouais, ah,
on va
dire, voilà, vous connaissez.
J'ai plus entendu ça en boîte de nuit, même oh là, pas très longtemps.
Hein, monsieur fait dans l'underground. Attention.
Bon, c'était des soirées étudiantes.
Hein, la vie secrète de môme qui vous est révélée tout de suite. Hey, la possession à Paris n'a qu'à bien se tenir. Bon, en tous les cas, Moum, merci à toi, merci d'avoir été parmi nous. Encore tous mes meilleurs voeux pour cette année. Je te la souhaite pleine de succès, de bonheur et de santé, bien sûr. On a vraiment hâte de découvrir tous les projets et tous les singles du prochain album Flashback FM. Encore un petit peu de patience, c'est pour le 12 février prochain, et ça sera, j'espère, le plaisir et l'occasion de te recevoir en direct dans les studios de Radio FG.
Super, merci Antoine.
Mais je t'embrasse, mon ami.
Septembre 2018, Antoine Baduel reçoit Justice.
Faire un album live qui ne sonne pas fondamentalement live, mais c'est pleinement live. Justice aime les défis. Le duo français a passé des nuits, des dizaines de concerts à revisiter sur scène. Ses plus gros hits, un travail qu'il a tenu à reproduire dans un nouvel album qu'il vient de sortir, Woman Worldwide. Et là, Gaspard et Xavier se lâchent vraiment. Et les Justice, ce soir, sont mes invités de l'Happy Hour. Gaspard, Xavier, bonsoir. Bienvenue sur
FG. Salut Antoine.
Et ben, en tous les cas, soyez les bienvenus. C'est devenu une tradition chez vous, un album auquel succède évidemment une version live. Preuve, s'il en est, d'un amour pour la scène qu'on vous connaît évidemment. En quoi c'est un terrain de jeu pour vous, justement, le live? C'est le côté sans filet qui vous amuse, qui vous excite, l'obligation d'être efficace sur l'instant, même si vous avez aussi affaire à un public initié et extrêmement exigeant?
Ouais, c'est exactement ça. On fait les albums studio pour nous, sans vraiment se préoccuper de savoir si les morceaux seront dansants ou alors même écoutables d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on le fait de manière très égoïste. Mais quand on fait des concerts, il y a une obligation d'efficacité, comme tu disais. Et spécialement au festival, enfin, on fait énormément de festivals. Et le but du jeu dans le festival, c'est un peu d'attraper tout le monde et de les garder jusqu'au bout, y compris ceux qui ne sont pas venus nous voir, mais qui passent là par hasard ou qui connaissent un morceau. Donc, Justice en studio, c'est assez spécifique. Et Justice en live, ça, normalement, ça attrape tout le monde et ça le garde jusqu'au bout.
Alors, Woman Worldwide, c'est l'album qui consacre une vision live, justement, comme revisiter, j'allais dire, de vos plus gros hits, comme tu le disais. Mais vous l'avez aussi conçu comme un album studio. Alors, expliquez-moi, parce que l'aspect purement scénique, j'allais dire, vous suffisait pas. Il fallait quelque part le réimporter, le refixer.
Ouais, en fait, ça vient de... D'une part, de la frustration des gens de ne pas pouvoir écouter cette musique-là chez eux, en dehors des vidéos YouTube. Ou alors, quand on avait fait des albums live avant, il y avait quand même le bruit des gens et c'était, on ne pouvait pas écouter la musique vraiment. Donc, on s'est dit, cette fois, faisons-le sans bruit public et faisons-le clean. Et aussi, nous, sur scène, finalement, on ne peut jamais obtenir exactement ce qu'on veut. Là, on a fait je ne sais pas combien de concerts, on n'en a jamais fait un qui était parfait du début jusqu'à la fin. En fait, ça n'existe pas. Et même en termes de son, on est limité par l'équipement qu'on utilise. On ne peut pas trop demander aux ordinateurs qu'on a de travailler, donc tout est assez minimal. Et voilà, là c'était l'occasion pour nous d'aller jusqu'au bout de la vision de la musique qu'on a. Donc on a enregistré des concerts, on a pris les meilleures prises de chaque morceau, on a tout remonté dans le studio et on l'a mixé comme un album en fait.
Alors ce qui est intéressant, c'est que l'album Woman était brut et disco. Là, pour ce Woman Worldwide que vous sortez, on retient un côté plus wild, plus sauvage, plus vénère. Est-ce que justement le live, il révèle aussi cette autre nature de Justice, plus portée sur des sons, j'allais dire, écorchés vifs?
Ouais, bien sûr. Mais en fait, on n'écoute pas beaucoup de musique électronique, mais ce qu'on aime bien, généralement, en musique électronique, c'est les trucs assez violents et ouais, c'est assez brutaux. Et généralement, quand on joue en DJ et quand on joue en live, ça va plus de ce côté-là. Voilà, on adore les choses très douces et mélancoliques et les choses très brutales. Et c'est vrai qu'en live, on est plus du côté brutal. Ouais.
C'est marrant parce que quand on vous lit, quand on lit les interviews que vous pouvez donner dans la presse, on a toujours ce sentiment, alors je dirais pas de tiraillement, mais de dualité entre d'un côté justement le côté onirique posé, d'un autre côté le côté plus brut, plus radical, mais aussi toujours cette dualité entre le live et le studio. Alors finalement, ce projet Woman Worldwide, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accentué le fossé ou alors au contraire, il a réconcilié?
Il réconcilie un peu tout ça, ouais. Finalement, on fait le Woman Worldwide, c'est une sorte de condensé de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, en tout cas les morceaux les plus marquants, et avec un aspect un peu plus brutal, mais sur la base très mélodique des morceaux. Ouais.
Les Justice qui sortent Woman Worldwide, version live, revisitée, enrichie de leur précédent album. Une interview retransmise évidemment en live sur la page Facebook de Radio FG. Xavier Gaspard avec Woman Worldwide. On sait qu'on peut vous découvrir, vous savourer finalement de deux manières, en studio, sur scène ou en live. Le problème, c'est que l'un et l'autre apportent finalement, enfin plutôt le problème, le fait est que l'un et l'autre apportent des choses extrêmement différentes. D'un côté, c'est la spontanéité d'un concert et d'un autre côté, c'est la réflexion avec le studio. Du coup, quel est l'endroit où finalement vous vous sentez le plus libre?
Mais justement, on prend ça un peu comme une chance de... Parce qu'il y a un troisième truc, il y a en DJ aussi, où c'est très différent c'est de, ouais. des concerts et de, du studio. Mais je pense qu'on veut les garder très différents pour pouvoir nous aussi, à chaque fois, revenir dedans de manière un peu fraîche. Et ce qui fait, par exemple, qu'on est, on fait pas beaucoup de DJ, mais à chaque fois qu'on le fait, on est content de le faire, puisque c'est encore autre chose et on n'est pas en train de jouer nos morceaux à tout prix.
C'est ça qui est intéressant, c'est la balance finalement entre l'action et la réflexion dans votre travail. Mais c'est marrant parce que souvent, quand on voit même sur un album, il y a toujours des nuances comme ça entre les morceaux. Et c'est vrai que quand on vous entend en interview, il y a toujours cette complémentarité. Mais évidemment, inévitablement, par contre, bosser sur vos morceaux en live, ça leur donne aussi un côté à vif, émotif, festif, onirique. Finalement, est-ce qu'il y a une part d'impro qui est importante quand on est en live ?
Non, on improvise très très peu en live. C'est un show qui est tellement
millimétré, en
écrit.
Fait.
Ouais. Et en plus, nous, on peut pas. Enfin, on peut se parler, mais pas beaucoup dans les concerts.
Et sans échange, vous pouvez évidemment pas déroger finalement de l'écriture.
C'est un peu dur, mais surtout la lumière et les machines. Enfin, le côté de l'aspect, enfin, la déco, ce qu'on appelle les machines, c'est ce qu'on a au-dessus de nous. Rien n'est timecodé, donc tout est déclenché à la main. Donc le mec qui est aux machines, notre éclairagiste, et nous deux, on doit savoir exactement ce qu'on va faire avant qu'on commence. Mmh. Sinon, on est dans les choux, en fait. Et donc, il y a des espaces sur lesquels on peut faire des variations, mais c'est quand même assez étroit. On essaie généralement de... On se met d'accord sur quelque chose et on essaie de bien le faire.
Alors, en 10 ans de carrière, puisque vous fêtez vos 10 ans, hein, avant tout, cet album marque aussi cet anniversaire, c'est aussi réalisé que vous êtes une référence pour toute une génération au niveau de l'électro. Et c'est marrant parce que dans ce côté référent, il y a aussi... vous êtes toujours démarqué, vous êtes très loin du côté show-off d'une autre scène DJ qui s'est beaucoup médiatisée. Est-ce que c'est votre modestie, justement, qui vous a toujours guidé par rapport à ça? Parce que vous avez toujours été, très sympathique pour le public et en même temps, quelque part, inaccessible.
Je pense que c'est plus un truc de sensibilité. On a une manière de jouer en DJ qui fait qu'on peut pas du tout aller dans les mêmes sphères que les DJ superstars. Mais tant mieux, pour nous DJ, c'est on nous offre une fenêtre pour imposer aux gens ce qu'on a envie d'écouter pendant une heure et demie, y compris les trucs les plus absurdes, les plus violents ou les plus brutaux. Et on veut s'en servir comme ça et pas forcément pour servir à la soupe. Et je dis ça sans condescendance par rapport aux autres, hein. Je dis pas que c'est ce que les autres font, mais quand on joue dans un festival EDM par exemple, plus les gens qui sont avant et après nous sont des superstars, plus on va jouer des trucs difficiles.
Alors c'est intéressant parce que souvent aussi quand on parle de justice, on parle de format long, on parle de temps pour s'exprimer. Et il y a une chose aujourd'hui qui est très brutale, c'est finalement la consommation de la musique, le streaming qui a énormément changé, qui a raccourci considérablement les délais, les formats, tout est très formaté, tout est très court, tout est fugace finalement. Est-ce que c'est pas frustrant justement cette nouvelle manière de consommer la musique ?
Ben, ça l'est d'une certaine manière. Ça l'est si tu veux faire si tu veux faire des gros scores sur les plateformes de streaming. Mais en même temps, ça offre une liberté de format qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, c'est possible de faire un album qui dure 4h30. Il n'y a plus la limite du support, donc c'est plutôt une bonne chose.
Alors évidemment, Woman Worldwide, il est basé sur le live. Un album que vous avez réinventé justement. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir maintenant une tournée ? C'est-à-dire on va réinventer le live du live ?
On pourrait, mais en fait c'est déjà ce qui se passe un peu. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a enregistré ces versions et maintenant, il y a des morceaux qui ne sont pas exactement pareils et qu'on a encore améliorés. C'est un peu sans fin, mais non, on s'arrête de tourner là, dans un mois.
En tous les cas, un mois encore pour réinventer les titres déjà réinventés.
Voilà.
Merci en tous les cas à tous les deux. C'était un plaisir en tous les cas de vous accueillir comme toujours. Gaspard et Xavier du duo Justice, version live explosive pour leur album Woman Worldwide. Ils viennent de saluer d'ailleurs leurs 10 ans de carrière. Et tout de suite, si vous nous appelez au standard de Radio FG, vous appelez Lucas, vous gagnez vos t-shirts avec un vinyle dédicacé des Justice. Vous nous appelez tout de suite. En tous les cas, les garçons, merci et plein de bonnes choses pour cet anniversaire.
Merci Antoine.
Merci.
Salut.
À vous.
Mars 2022, Antoine Baduel reçoit Lewis Hoffman.
Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Lewis Hoffman qui est mon invité. On va aller direct, hein, droit au but avec Lewis Hoffman. Son album baptisé Sonic Poems est super cool, mélodieux, électro, disco, groovy à souhait. On en ressort un peu ahuri, comme après une trop longue, trop belle soirée, le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête. Lewis Hoffman a fait une école de cinéma, mais c'est bien dans la musique qu'il excelle. Le nouveau talent de la scène française est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Lewis, comment tu vas ?
Bonsoir, ça va.
Alors tu l'as compris, on a beaucoup aimé cet album, notamment parce qu'il sonne moderne, frais, différent, en tous les cas éclectique, et c'est ça qui est bien. Est-ce que c'est ce que tu voulais justement, te démarquer un peu de ceux qui sont en ce moment dans la revisite des années 80, 90, parce que ça c'est vrai que c'est un peu la grande tendance. Est-ce que chez toi il y avait vraiment cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau, ou finalement quand tu produis ta musique, tu te poses pas de questions ?
Bah voilà, alors... En fait, on en parlait dans le hall là.
Ah oui, mais ça, on n'a pas entendu.
Justement,
il faut que tu nous dises.
C'est parfait, c'est comme s'il y avait eu un
fluide.
Voilà. En fait, moi, ma musique, je la fais sans vraiment me poser de questions. Avec les. Il y a ce que j'aime, et voilà, je fais mon truc. Et en effet, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup ce truc années 80, ces choses-là. Et moi, je
me connais. Pas qu'en France, hein.
Oui, oui, non, mais c'est... ce que je veux dire.
Dans les musiques électroniques en ce moment, c'est partout, hein.
Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que moi, oui, je me reconnais pas du tout là-dedans. C'est pas spécialement la musique que j'écoute. Encore, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'années 90 un peu plus. Et donc, ouais, c'est l'envie de me démarquer. C'est pas pour ça que j'ai fait l'album, mais en tout cas, c'est vrai que.
T'apportes quelque chose à toi, quoi.
Bah, c'est surtout ça, quoi. Me démarquer naturellement.
Alors, je l'ai dit, t'es très inspiré par la fête. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure en antenne. Où tu sors ? Parce que la nuit semble t'inspirer, les souvenirs sont forts, les relations aussi, sans parler des moments partagés. T'as l'air de puiser beaucoup d'inspiration dans ce temps festif où on vit peut-être un petit peu plus intensément. Ça veut dire que toi, t'es un gros fêtard, ou alors c'est quelque chose qui, en tous les cas, la fête, t'aimes bien la sublimer ?
En fait, la fête et la nuit, c'est une chose parmi beaucoup de choses qui m'inspirent. Parce que c'est dans toutes les choses qui m'inspirent, cette chose-là qui m'inspire, encore une fois, c'est ce qui est extraordinaire. Et c'est-à-dire que le soir, la nuit et dans les fêtes, il y a cet élément-là. Parce que d'un coup, il se passe des choses...
Qui ne se passeraient pas en journée.
Éventuellement. Et qui, du coup, créent quelque chose en moi qui me dit « Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai envie de recréer cette chose-là pour y rêver. » Mais ça peut être aussi juste me balader à Barcelone... sur une colline un mardi après-midi le 4 janvier parce que c'est dingue et qu'il fait beau, c'est des choses comme ça en fait où je me dis où là ça touche au mystique. Et donc c'est pour ça, oui, tout à l'heure quand tu me demandais où je sortais, bah je sors pas spécialement beaucoup, mais quand je sors en effet
c'est des moments sublimés en fait, c'est ça.
Ouais, ça peut être des, je sais pas, un dîner avec des amis, mais genre organisé d'une façon qui où on peut vraiment rigoler et on est, je sais pas, on va être genre 5, 8, 12.
Et c'est déjà une fête en soi.
Et c'est une fête en soi.
Alors, voilà. je trouve que le titre de ton album, il est très intéressant parce qu'il dit tout de l'artiste que tu es. Sonic Poems, cette volonté de créer de vraies chansons, pas que des bangers, mais aussi de leur donner une âme. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'elle vient de là, l'idée aussi de créer des poèmes ?
Bah oui, en fait, c'est que chaque chanson peut avoir son chemin à soi. C'est-à-dire que chaque chanson peut se démerder dans le monde tranquillement. Et l'album en soi, c'est un recueil. Je le vois plus comme ça aujourd'hui. Plus que comme une espèce de chose, comme un fil conducteur où tu commences par la chanson 1 et après, voilà. En fait, on peut se balader dedans, mais il y a une légère histoire aussi. Il y a le cœur de l'album avec Love Parade et Sorry Not Sorry où on est vraiment face au contraste et à l'amour fou et à la catharsis. Donc, c'est ces deux choses-là. Mais après, on peut puiser dedans et faire sa vie avec.
Et picorer, en fait.
Voilà, c'est ça.
Tu es le fils d'un artiste, d'un peintre. Je crois que toi-même tu es très inspiré et fasciné par Picasso. Ça donne une palette forcément de couleurs, d'émotions. Est-ce que ton album c'est un peu comme une toile sur laquelle tu t'es amusé ? Ça veut dire qu'il faut l'écouter pour avoir une vue d'ensemble, pour avoir le tableau complet finalement quelque part, pour le comprendre aussi ?
Alors ça serait bien, totalement, puisque quand j'entends des choses en disant que c'est un album très joyeux, la fête et tout ça, quand on écoute des choses comme je sais pas, comme Midnight Sex ou alors même Energize, quoi, c'est différent. SOS, c'est différent en fait. Pour venir sur l'histoire de la toile, je dirais plutôt que c'est la vision qu'une toile pourrait être. C'est-à-dire que mon album, pour moi, quand je l'imagine, c'est un bouquet de fleurs dans un hangar avec un talon, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ce que permet ce collage qu'est l'album. Ça permet cette image-là plus que l'album étant une toile.
C'est clair. Non, voilà. Non, mais c'est clair. Tu sais qu'à force d'en parler, on va finalement avoir vraiment très, très envie d'écouter. On va s'écouter Attitude. Premier single, premier banger qui nous avait énormément marqué de toi. Lewis Hoffman avec Attitude. Et puis on est de retour dans un petit instant avec Lewis Hoffman qui vient nous présenter son premier album, Sonic Poems. Vous le savez, dans la Happy Hour FG, on aime beaucoup vous présenter les nouveaux talents de la scène française. Et ce soir, mon invité, c'est Lewis Hoffman qui vient de sortir Sonic Poems, son premier album. Alors, je parlais de peinture hein, tout à l'heure, Lewis, mais j'ai lu une interview où tu parlais beaucoup de synesthésie, cette capacité de certaines personnes à mixer les sensations, leur ressenti. Par exemple, lorsqu'elles entendent un son, elles en voient en même temps une forme, une lettre, une couleur. C'est l'arme secrète que tu permets qui te permet justement à toi de créer ta musique de manière si inspirationnelle.
Je pense que c'est aussi plus qu'une arme secrète. En fait, c'est, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas. Même pour décrire des situations, pour décrire un objet, je vais faire des analogies comme ça qui n'ont pas forcément quelque chose à voir. Et pour moi, ça veut tout dire. Et pour l'album, en fait, oui, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, je vais me dire qu'est-ce qui pourrait être le son pour ce sentiment. Mais je vais pas y réfléchir. Je vais essayer d'être vraiment de faire gérer l'inconscient. Et donc, on n'y réfléchit pas en fait. On se dit. Qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de ne pas être un filtre et vous, le truc arrive comme ça.
Alors, puisqu'on parle de palette, évidemment que ton album brasse les références disco, électro, groove, rap, tout ça sur fond de mélodie et d'instruments, surtout avec les synthés, avec une approche finalement très british dans la manière de faire de la musique, c'est-à-dire pas enfermé dans des cases et surtout décomplexé. Est-ce que toi-même, tu produis avec l'idée de te dire, tiens, ce track-là, il va être plutôt disco, il va être plutôt funky, plutôt groovy? Ou alors vraiment, quand tu pars au départ sur de la page blanche, quand tu vas faire le single, tu te laisses aller?
Oui, je comprends pas ce qui se passe.
Ouais.
Là, je fais le truc, et surtout pour la majeure partie de l'album a été composé à Londres en studio avec le producteur Tim Goldsworthy. Et lui, il balançait des samples comme ça et on enregistrait tout, je jamais. Et tu balances les idées et tu sais pas ce qui se passe, c'est comme ça. Et c'est après, quand on exportait, que je disais, ah, cette chanson, parce qu'il faut mettre un titre. Le titre, c'est l'idée. Il dit, alors, c'est quoi le titre de celle-là? Fuck you. C'est quoi le titre de celle-là? Toxic Night. C'est quoi celle-là? SOS. Tu vois, c'est genre. T'essaies d'être le plus honnête dans ce que tu
le
vois.
Le plus cache, en fait. C'est vraiment ce qui va t'apparaître, en fait.
Ouais. Ouais. Parce que c'est ça qui est. C'est le sentiment brut. Et après, on taille le truc.
Et ton personnage, c'est pareil? Il est brut? Ou il est taillé, justement? Comment? Parce que l'artiste est aussi ton personnage, l'image que tu dégages, ton look un peu nonchalant, un peu cool. Est-ce que ce personnage, il est spontané ou il est très travaillé?
Il est. Oui, ben. J'essaie vraiment de pas réfléchir encore une fois une seule seconde. Après là en venant je me dis bon il faut quand même que je sois dans un bon mood.
Ah bah ça,
sinon
c'est clair,
on va oui. Se faire chier.
Je vais pas leur cracher à la gueule parce que comme ça.
Voilà.
Idéalement si pour faire la promo de mon album.
Ouais. Bah oui. Et d'ailleurs je suis parti ce week-end à Marseille pour dormir bien.
Ouais.
Pour être vraiment dans un bon mood et
elle
parler bien ici.
Elle est inspirante cette ville. Hein.
Et bah pour moi c'est surtout l'amour parce que c'est ici que c'est là-bas qu'il y a ma copine qui vit et donc je.
Ah. Très bien, on en profite d'ailleurs pour embrasser très fort les Marseillaises et Marseillais qui nous écoutent. Très nombreux, parce qu'évidemment elle est inspirante cette ville. Est-ce que justement toi dans ton personnage, parce que forcément qui dit carrière qui se trace, dit aussi un artiste qui doit maîtriser son personnage. Est-ce que t'es déjà dans la maîtrise de tout ça?
J'essaie de pas maîtriser, de pas trop contrôler. Oui, mais après voilà, j'avoue qu'il m'est arrivé la semaine dernière de pas comprendre que j'étais très fatigué et j'ai failli m'embrouiller avec un gars dans un resto parce qu'il me faisait chier quoi. Et là je me suis dit attends, là il y a un problème. En même temps il était chiant, il voulait pas me passer le ketchup et tout en disant qu'il faisait pas le service.
Attends, si on ne passe pas le ketchup, moi je pense que ça justifie.
Je me suis dit putain, mais après peut-être que voilà, tu vois, hier je me suis fait contrôler dans le bus. Alors que je venais de. Bon, vas-y.
Non, mais là, on n'est pas en psychanalyse, hein, chérie. Hein. On est en interview. Alors, en live, ça donne quoi, Lewis Hoffman, maintenant que le Covid est derrière nous? Seul sur scène, à enchaîner les instruments, avec un groupe?
Tout seul sur scène.
Tout seul sur scène.
Ouais, j'ai pas envie encore de.
Et là, t'enchaînes les instruments, tout?
Ouais, en fait, j'ai mes trois synthés, tu vois, que je connais par cœur. Et en fait, ce qui est important au stade où je suis, là, c'est vraiment d'exporter. Ma musique, tu vois, plus que de réfléchir à un live compliqué et tout ça, c'est genre moi, comment j'anime le projet, je viens montrer aux gens qui je suis, je joue ma musique et on kiffe tous ensemble, plus que genre, ah putain, le mec il joue là, enfin tu vois, je joue tout ce que je peux jouer avec toute l'énergie que je peux. Mais après, l'idée, c'est surtout d'incarner ce qui se passe.
Lewis Hoffman, merci beaucoup. Merci pour ce passage sur FG. En tous les cas, le jeune talent de la scène française, encensé depuis la sortie de son premier album, qu'on vous conseille vivement. Il s'intitule Sonic Poems. Merci, Lewis. À très bientôt sur FG.
Septembre 2016, Antoine Baduel reçoit Cassius.
10 ans que Cassius n'avait pas sorti d'album, 10 ans qu'on ne vivait pas, du coup, on survivait. Bon,
c'est vrai, nous aussi d'ailleurs,
on force un peu le trait, mais c'est vrai que la sortie d'un nouvel album, c'est clairement un événement pour le duo et qu'on adore, évidemment, d'abord parce que c'est des amis de longue date, comme on dit, mais
très
également
longue date, ouais, c'est vrai.
Des musiciens qu'on adore sur FG. Ibifornia, évidemment, vous l'avez compris, c'est la contraction d'Ibiza et de California, un lieu qui, quelque part, est totalement onirique, une île luxuriante, riche de collaborations ultra festives avec pour bande son de la pop, de l'électro, de la funk, de la disco, de la house. Philippe Zard, Hubert Bombas sont mes invités ce soir pour cette émission spéciale. Bonsoir les garçons.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir,
bonsoir FG.
Antoine.
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans les bureaux.
Such a long time. Ah ben ça, c'est le problème d'Elodie, elle fait barrage en fait.
Tout a été repeint. Ah, c'est Elodie.
C'est une, elle fait barrage. Enfin, je voulais dire à
non, je crois que c'est parce qu'Hubert demande trop cher. Non, c'est pas ça.
Ça, c'est le deuxième problème.
Hubert veut toujours être payé en promo. C'est très bizarre.
Non, caché.
Mais comment ça se fait? Il n'y a que le journal du dimanche qui a accepté de lui donner 20 briques.
Les garçons, on en parlait à l'instant. Ibifornia, c'est une histoire, c'est un voyage. Et ça nous aide à le comprendre quand on écoute cet album, parce qu'on passe d'un chemin à l'autre. Tantôt disco avec The Sound of Love, tantôt carrément house avec Ibifornia. Les collaborations influencent beaucoup. Ça, on en parlera tout à l'heure, chacun des morceaux. Mais est-ce que c'était votre idée de départ, comme ça, de nous livrer une palette de couleurs avec les différents jardins secrets d'Ibifornia?
Pas au tout départ, pour être honnête, non. Mais ça s'est vite profilé quand Philippe est arrivé avec le titre.
Ah oui. D'un autre côté, je crois que si on réfléchit bien, c'est que c'est ce qu'on est en fait avec Hubert. Donc en fait, c'était, que ce soit l'idée ou
oui,
pas de départ,
pas
finalement, c'est ce qu'on est.
C'est
chaque album,
c'est vrai.
Quand je les réécoute, l'autre fois, j'ai eu ce qu'on a sorti le back catalogue. Du coup, je me suis refait au rêve. C'est un bordel infini de. D'ailleurs, on est en train d'écouter le track au rêve. Et c'est un bordel infini de toutes nos influences qui cohabitent. Alors, je me souviens, dans les années 90, on nous disait tout le temps, ah, mais comment on réussit à faire ça? Puis en fait, là, on vient quand même tous de vivre 20 ans où tout le monde met toutes ses influences et c'est plus du tout bizarre d'avoir un disque avec de la house, de la techno, du machin, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est notre façon d'être. Il est hyper. Et c'est la seule différence, c'est que celui-là, on a réussi, entre guillemets,
ouais,
d'approcher
à
le truc
à un moment,
qu'on voulait vraiment faire.
C'est devenu un peu l'histoire de Bifornia. C'est-à-dire quand c'est arrivé, malgré tout, on s'est dit, tiens, donnons une vie et un sens à l'heure de musique que ça va être.
Alors, il y a une chose aussi qu'il faut préciser, évidemment, c'est les collaborations. Déjà, avec Fistin Again, pas mal de monde qui avait collaboré à vos côtés. Mais là, c'est un vrai travail d'équipe. Une liste de collaborations de prestige, Pharrell Williams, Mike D des Beastie Boys, Ryan Tedder de One Republic, pour ne citer que. Et ça ressemble à une.
Cat Power,
obligé.
Exactement. Ça ressemble à une cour de récréation où des potes prennent leurs pieds. Est-ce que je me trompe?
Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça.
Ma mère m'a dit ça quand elle est venue au studio.
Ouais, c'est fou.
C'est marrant. C'est on dirait deux gamins au square en train de jouer dans le bac à sable avec les autres potes qui arrivent en disant moi aussi je veux jouer.
Il y a quand même un truc. Parce que la balance, elle se fait chez vous justement sur ce côté, une ambiance super détendue et en même temps des vrais perfectionnistes au travail. Comment vous balancez comme ça vous êtes total destroy, total freestyle, vous faites des concessions quand vous avez justement toutes ces collaborations qui viennent et c'est entre vous que vous mettez la pression? Ça se passe comment en studio?
Non, je crois que c'est hyper naturel. On a un truc, on est des mecs de studio. Moi, Hubert, quand je l'ai connu, c'est le fils de Demi Hubert Francard, il est né dans un studio. D'ailleurs, j'ai racheté le studio que ton père avait en 83.
C'est ça qui est drôle.
La fois où j'ai fini les travaux, Hubert y arrive, il me fait, ah, c'est fou, j'avais 5 ans, je marchais là, etc. Et moi, je suis obsédé par ça depuis le jour où j'ai quitté Aix-les-Bains à 17 ans et demi et que je suis arrivé à Paris. Et donc, le studio, c'est un endroit qui est comme un tribunal qui devrait être fait pour t'impressionner. Mais nous, il nous impressionne plus, c'est notre endroit. Donc, on réussit à garder ce truc.
C'est plutôt votre refuge. C'est votre cocon.
C'est un endroit où on se sent heureux et on sait qu'il y a des choses magiques qui se passent.
Donc, on se sent sûr.
On arrive à y vivre des moments assez cool. Et ça, c'est vraiment important de libérer les autres avec, parce que Cat Power, Pharrell, Mike, tous ces gens-là, ils ont passé leur vie en studio. Donc, après, il y a des divers moments où tu peux te retrouver avec un ingénieur du son ou un personnel studio qui te met de la pression. Nous, on met une sorte de truc, on veut rigoler, on ouvre des bouteilles de Bourgogne, il faut qu'on se marre, il faut que ce soit le bordel et un peu improvisé. Mac n'était pas censé le rapper 3 minutes avant. On lui a fait rentrer, on lui a dit tu veux pas rapper là-dessus? Il écoute, ah j'aime bien, ouais, j'écris. Ouais. Et voilà.
Et alors justement, vous parlez de studio, mais où?
À Paris, aux États-Unis, à Ibiza.
Beaucoup au studio, le studio de la maison de le studio Montmartre, qui est Motor Bass Studio, qui est mon studio, ouais. Et dans lequel on a passé pratiquement 2 ans là. Puis après, on a enregistré aussi à Oscilloscope, c'est le studio des Beastie Boys à New York, et à Shangri-La, qui est le studio de Rick Rubin à Los Angeles.
Ça se passe comment aujourd'hui une production? Parce que évidemment, on a été bercé par ces productions qui avaient été produites au départ en très peu de temps. D'ailleurs, certaines de vos premières productions étaient un peu dans ce cas de figure. Aujourd'hui,
la première.
Ouais.
Ouais, la première seulement. Après, c'était très long.
La première n'a mis qu'un an, et ensuite c'était beaucoup plus.
Après, évidemment, on a des collabs. Vous êtes réputé comme des perfectionnistes, je le disais. Alors, vous êtes même méticuleux, je pense. C'est surtout ça, le mot.
Ouais, c'est tout à fait possible. Justement.
Alors, concrètement, en studio, c'est
important
quoi
quand même.
Vous allez passer des heures sur une voix, sur un riff de guitare?
Non, ça ne fait plus ça.
Non, en fait, on va très vite au début. Et malheureusement, techniquement, enfin vraiment, si tu veux que je rentre dans le détail, c'est qu'on fait très vite un truc et en fait, on veut toujours.
Je peux rentrer. Pas dans moi.
Il est où d'ailleurs? Reviens là, s'il te plaît, détail. Et on est très très rapide pendant un très court laps de temps.
Non, voilà. Non, ouais, c'est comme ça qu'il rentre dans le détail.
C'est comme ça qu'il rentre dans le détail. Et ensuite,
c'est toi,
détail, fait
Philippe,
la gueule.
J'ai rien senti.
Surtout toi, bien moi personnellement.
Très méticuleux.
Et dites-moi, les garçons, toutes ces collaborations, c'est quoi? C'est le fruit d'une longue réflexion? C'est aussi d'une longue amitié avec les artistes? Ou alors, c'est des rencontres?
C'est Hubert. Hubert qui a couché. Hubert couche avec tout le monde et du coup, ils veulent tous bosser avec nous.
Enfin, ça fait 20 ans qu'on le sait quand même.
Je sais pas quoi vraiment
j'ai lâché,
dire.
J'ai lâché l'info, j'en avais
c'était
marre.
C'était nos secrets.
Ça fait
maintenant
15 ans que je garde ce truc en moi, les gars.
Le secret a été ventré.
J'en pouvais plus carrément. Ça y est, c'est fait. Moi, bon, je suis un ami avec Cat Power, mais Hubert a dû coucher avec tous les autres.
C'était pas facile, mais bon, ça fait un beau disque.
Ah bah.
Il a le sens du. C'est un bon français, il a le sens du sacrifice.
Alors, évidemment, toutes ces voix, quand on les écoute et quand on écoute Ibifornia, c'est donc une île paradisiaque, très ensoleillée. Je me permets plus de dire l'autre mot, j'avais écrit vierge, mais là, sur le retire.
Ouais, c'est vrai. Non, moi, je suis encore mais vierge, il est plus.
Absolument. Et donc,
mais je sais pas de quoi vous parlez.
Où l'on danse les pieds dans l'eau,
non,
c'est vrai.
Ouais,
que...
ouais, ouais.
C'est vrai qu'en tous les cas, on se projette. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez vous-même enregistré, produit beaucoup de choses à Ibiza? Parce que c'est aussi un lieu où vous vous éclatez l'été. Est-ce que ça a été un lieu aussi d'enregistrement?
Il y a
pour
pas
vous
mal de bases qui viennent de là.
Il y a des petits
morceaux.
Des petites aventures musicales.
Fifteen Again, on l'a fait dans une maison à Ibiza en octobre. C'était incroyable. On pouvait mettre hyper fort.
Mais quand même, Ibiza, voilà, c'est surtout pour nous, c'est aussi un lieu de ressources, ouais. Où on se ressource.
Ouais, bien sûr.
C'est d'énergie.
Quand vous êtes à Ibiza, c'est la part justement, vous vous ressourcez, vous vous posez, même à la rigueur, vous continuez à réfléchir à des choses, versus vous vous produisez, vous allez au-devant du public, voire vous testez certains des morceaux de l'album. C'est quoi? Vous êtes toujours un peu à mi-chemin entre les deux?
Non, on est beaucoup plus en ressources. Déjà, ouais. On joue beaucoup moins à Ibiza. On a joué deux fois là cette année pour Martin, justement. Martin Sabek, trop cool, c'était hyper sympa. Et c'est juste que. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand on est arrivé à Ibiza, on jouait au Space, il y avait pas de toit, moi je jouais pieds nus, Hubert il était là, on arrivait en retard, on se rendait même pas compte de ce qu'on vivait, les avions passaient devant et les mecs déchiraient leurs billets, c'était fou, il y avait des filles partout. Et puis après, tout d'un coup, il y a eu cette espèce de truc où c'est devenu comme Las Vegas, Ibiza, il faut le dire,
bien les sûr, choses
comme elles sont, c'est rempli de camions, des camions qui livrent des mecs, qui déboulent en pantacourt, en boîte, on s'en fout, mais je veux dire, il y a... On attend de retrouver d'ailleurs un truc qui est en train de revenir. J'ai vu par exemple à Glitterbox, qui est une soirée de Space cette année, où les gens s'en remettent à danser, où il y a un vrai mélange, etc., etc. Je crois que les gens ont besoin de ça. Les trucs qui ont explosé cette année, c'est ça, Cova Santa, des endroits où il y a un peu l'esprit d'Ibiza qui revient, parce que là, il y a un petit peu trop de cynisme. Donc nous, de toute façon, on va là-bas parce qu'on aime l'île. Les clubs, on n'y va pas souvent. Moi, je sors au DC10 une fois de temps en temps.
Mais il y a ce truc magique du club quand il va quand même, ce qui nous arrive, c'est que tu sors à 5 du mat quand le soleil se lève, ou à 6 ou à 8, t'es sur l'île. T'es pas dans Paris ou à Londres ou à New York, t'es sur cette île.
Non, ouais. Il y a un cadre qui est extraordinaire,
qui prête quand même à ça.
J'aimerais qu'on revienne quand même sur l'album, parce que vous avez déjà présenté plusieurs singles de cet album. The Missing, ultra addictif, chanté par Ryan Tedder. Vous êtes aussi en plein Summer Tour. Alors, quels sont les retours déjà que vous avez eu du public? Est-ce que vous êtes, vous avez l'impression que le public, quel qu'il soit, j'allais dire les publics, quelles que soient les villes le kiffe vraiment d'une manière globale? Ou est-ce que vous avez l'impression comme ça qu'il y a certaines sonorités qui fitent davantage avec certains publics?
Pour l'instant, en tout cas, sur les retours qu'on a, j'ai l'impression que c'est assez global et c'est ce qui fait assez plaisir. On reçoit vraiment beaucoup de réponses sur la musique. Globalement de l'album, de ce qu'ils perçoivent, le fait qu'ils l'écoutent en entier et tout ça.
Il y a un retour aussi sur ce disque, j'ai remarqué, de retour, gratuit et gentil.
C'est-à-dire que je reçois énormément de textos qui, en général, s'appellent Ibifarnia, ou même des tweets, on voit d'autres artistes, même d'horizon, genre Alex Boys Noise qui fait de la techno, ou A-Track, où il y a plein d'autres qui disent, waouh, l'album, on adore, on est trop content, parce que c'est ce truc sur lequel on a bossé, c'est-à-dire l'heure. On voulait vraiment faire un album comme, tu vois, vraiment un album qui peut durer une heure, que t'écoutes du début à la fin. Et ben voilà, ça, j'ai en train de marquer les gens, j'ai l'impression. En tout cas, on a des bons retours de gens qu'on aime beaucoup.
Un petit mot en 30 secondes, il y a quand même une influence qui flotte comme ça, c'est celle de Prince, hein, des sonorités funk dans cet album, pop justement. À quel point a-t-il nourri votre démarche et votre musique? Parce que je sais que vous étiez des grands fans.
Bah, il l'a nourri depuis notre adolescence. On se connaissait pas à l'époque, mais on a tous les deux eu le même coup de cœur et la même claque sur son génie.
Ils auront marqué de leur empreinte cette scène électro-française et le travail plus souvent caché de nombreux autres artistes, parce qu'il y a eu aussi de nombreuses collaborations avec beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, ils reviennent. Les Cassius, ils signent Ibifornia, leur nouvel album dont on a beaucoup parlé. Alors les gars, on en parlait de vos projets passés. C'est vrai que Cassius incarne un son. Vous avez été aussi ambassadeur d'un autre son, celui de la French Touch à une certaine époque. C'était à la fin des années 90, une époque qui est révolue aujourd'hui. Alors justement, cette époque, elle a aussi inspiré finalement toutes les écoles qu'on voit aujourd'hui, évidemment la Deep House, la Techno, l'EDM, des sons qui sont aujourd'hui plus ou moins mainstream, plus ou moins populaires. Quel regard vous portez justement sur l'évolution de l'électro et le succès de toutes ces scènes et de tous ces genres finalement de l'électro?
Un regard tendre, tout ça part de Chicago pour la House ou de Detroit pour la Techno, c'est ce qui nous a tous fait rêver. J'imagine même que le mec qui fait les morceaux les plus absurdes d'EDM, au fond de lui, aime un morceau de pure techno de Détroit ou de pure house de Détroit.
T'as demandé à Chotek.
Il faut que je parle. Quelqu'un peut me donner le numéro de téléphone de Chotek. Je ne connais pas du tout, mais je veux bien rencontrer.
Je ne sais pas de quoi tu parles, Philippe.
Donc Chotek, salut, c'est Philippe Zard. Je voudrais savoir, est-ce que tu connais un peu la techno de Détroit?
Détroit. Chicago.
Tu me réponds ou pas?
Oui, salut, c'est Chotek. Bah écoute, j'y connais rien. Personnellement, j'appuie sur le bouton play, ça part tout seul.
Ah, super Chotek. Alors maintenant, on va passer à quelqu'un d'autre. Le pauvre Chotek. Putain, pourquoi on lui demande à lui, merde?
Bah sinon.
Il a rien fait.
Non,
bah,
non, il y a Cachemire. Cachemire.
Cachemire,
on a
un
regard très.
Non, on en regarde tendre.
Très tendre, très pervers. Moi, j'en regarde très, très pervers sur tous les jeunes garçons de l'EDM.
Alors,
ça, c'est ton côté, Hubert.
Grand classique de la musique. On nous annonce évidemment un grand retour de la house music, de la house chantée, celle aussi des divas incroyable qu'on a tous aimé, des Barbara Tucker, de tout ce son aussi très new-yorkais.
Au niveau
des voix, on se souvient tous avec beaucoup avec ce regard tendre aussi des Ultra Naté, des Barbara Tucker.
J'adore, j'en ai toujours fan.
Notre ami Jocelyn Brown.
Jocelyn Brown,
ça vous réjouit, j'imagine.
Ah, mais on est très content. Moi, j'ai vu justement à Ibiza cette année, grâce à la soirée Glitterbox, vous allez croire que je bosse pour Glitterbox, mais ils ont fait revenir Barbara Tucker. Je me suis dit, mais il était temps que Barbara Tucker revienne à Ibiza.
Je crois qu'elle n'était pas partie d'Ibiza, elle était restée.
Non, elle est restée, ok. Elle était plus sur scène, en fait.
Ils étaient une dizaine.
Bon, d'accord.
Non,
Hubert, d'habitude, t'es hyper drôle. Et là, depuis que t'as pris ta carte au FN et qu'on a découvert un truc sur le mec d'hier, je sais plus ce que c'est, je vais pas m'oublier. Et depuis que tu suis le procès de Cahuzac sur ton Twitter, là, tu n'es plus drôle du tout, man. Qu'est-ce qui se passe?
Le mauvais chemin.
Ouais.
Un album.
Retour du vocal.
Bah ça c'est clair. Un album, un concept, un univers visuel. Est-ce que vous avez toutes les données maintenant pour faire un beau live? Parce que forcément.
Eh bien. Écoute, ouais. Il manque une seule chose, c'est que Hubert le fasse torse nu. Parce que j'arrête pas de lui dire ça.
Non, mais on a trouvé.
Ça veut dire qu'il va devoir remettre un slip.
Ouais, c'est ça, exactement.
Non, attendez, non, ma mère écoute, c'est gênant.
C'est vrai, la mienne aussi.
On a trouvé la.
Bonsoir,
on a trouvé
Mambou la basse.
Mambou basse.
Il était temps, fils, quoi. Il
votre
était
fils temps qu'on est encore dévêtu chez FG, poursuivi par Antoine qui crie des trucs bizarres. Faites quelque chose.
Alors, donc, qu'est-ce que ça va être ce live?
Ça y est, on l'a fait déjà, c'est fini. Il fallait venir le voir le jour
en concert. On a trouvé le moyen de le faire en s'amusant.
D'emmener notre studio sur scène.
Voilà, exactement.
C'est comme si on refaisait.
C'est bien, ça.
Ouais, c'est un live qui n'est pas un live puisque les gens viennent pas chanter. La dernière fois qu'on a fait un live, on était 7, on avait un groupe, c'était merveilleux, on a passé une expérience extraordinaire, là on voulait changer. Et on s'est dit que chaque fois qu'on faisait des dubs au studio, tout le monde était là, ouais, on va faire un dub. Enfin, les quelques mecs qui avaient dans le studio. Du coup, là on a fabriqué une machine pour emmener au studio et on l'a mis cette machine dans un volcan.
Ah ouais.
Et voilà.
Devant un jeu de lumière.
Enfin, on va pas tout raconter,
exceptionnel.
Mais.
Est-ce qu'il y aura un univers aussi qu'on va retrouver sur, tout au long du déroulé de l'album avec les clips? Parce qu'Ibifornia, c'est forcément aussi un univers iconographique. Enfin, ça prête vraiment à...
Carrément, surtout on s'est entouré de fous dangereux géniaux qui sont les amis Toilette Pepper.
Toilette Pepper, ouais.
Et on fait tout le visuel de l'album, le premier clip, toutes nos photos. Et ouais, on est
extraordinaire et qu'on a eu la chance inouïe de travailler avec eux, Maurizio Cattelan et Pierre-Paul Ferrari, qui n'avaient jamais fait ça jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, qui ont fait, d'ailleurs, on les a vus l'autre jour, on était à un mariage, je lui ai dit, je suis tellement fier d'être le mec qui a fait le premier clip de Toilette Pepper. Et là, ils m'ont regardé tous les deux, il m'a dit, I'm the last. C'est-à-dire que l'expérience a été tellement folle pour eux. Ils n'en referont jamais de clip, donc je pense qu'on peut dire dans 20 ans.
N'oublions pas les Froid qui ont fait le clip de Missing, le deuxième clip.
Et, donc, et les prochains qui feront les autres clips. Ouais, on va essayer de faire une ligne, mais en même temps, on aime bien que les clips partent un peu tout dans tous les sens. C'est bien aussi, c'est un peu cassius. On a quand même réussi à faire plein de beaux clips à l'époque avec Alex et Martin, avec Evan Bernard, avec Roman Coppola, tous ces trucs-là. Et là, ça part quand même dans tous les sens, mais à la fin, c'est le fil, c'est la musique qui tient.
Le duo Les Cassius, en tous les cas, qui accompagne la scène française depuis ses débuts et qui n'a pas son pareil pour nous emmener dans des univers aussi festifs que colorés. Leur nouvel album, retenez bien son nom, Ibifornia, vient de sortir, bourré de collaborations et surtout extrêmement festif. Un album sorti, il faut le rappeler, sur un label qu'on aime beaucoup, sur FG, celui de Headbanger.
Headbanger Records.
Merci les garçons, c'était vraiment un plaisir.
Décembre 2020, Antoine Baduel reçoit Synapson.
Et les stars ce soir, eh bien, ce sont les Synapson. Souvenez-vous, June Mayamai, All In You, Fireball. Ça fait déjà 10 ans que Radio FG vous a fait découvrir ce duo français Synapson au départ dans le Starter FG d'Aki Makli avec un tout premier single qui était le Sentimental Affaire. Depuis leur premier album Stendhal Syndrome, les deux Parisiens ne se sont absolument pas laissés enfermer dans la capitale. Au contraire, chaque nouveau titre est une invitation au voyage et ce nouvel album qui vient de sortir est une carte postale. Global Music Volume 1, il nous livre... Eh bien voilà, des petites cartes postales musicales venant du monde entier. Et ce soir, les Synapson sont mes invités. On commence avec Paul tout de suite en interview. Et tout de suite, tout à l'heure, on retrouvera Paul et Alex en mix à partir de 19h. Comment tu vas, Paul?
Ça va très bien, écoute, ravi d'être là.
Ça me fait très plaisir de t'accueillir ce soir, de t'avoir. Ça fait déjà trop longtemps. Et le plaisir, tu le sais, bien sûr, partagé. Alors, Global Music Volume 1, c'est un album très riche. On trouve d'ailleurs pas mal de morceaux qui sont déjà sortis, parmi lesquels Benzema. On retrouve aussi Alex. Ça, c'est un nouveau morceau des Synapson qui vient de nous rejoindre à l'instant. Ça va, moi, Alex?
Ça va et toi, Antoine?
Oh, bah ouais, tout est soufflé, hein, évidemment, toujours.
Je rentre de Biarritz.
Ah,
il est presque
chance.
À l'heure pour ton anniversaire.
Exactement.
Bon anniversaire, Antoine.
Lengueno, excusez-moi pour la prononciation. Et puis, ils sont tous issus de collaborations avec des artistes du continent africain, comme la majorité de l'album. Alors, comment est né cet amour pour la culture et ces sonorités qu'on appelle volontiers world ou ethnique?
C'était surtout essayer d'aller chercher des sonorités que nous on n'était pas capable de reproduire en studio. Et c'était aussi l'occasion de faire des rencontres qui sont toujours assez génial, avec des influences et des univers artistiques différents.
Alors, du coup, l'album, c'est à la fois une invitation au voyage, mais aussi une succession de rencontres, parce que chaque titre, c'est un featuring, c'est une voix, c'est une collaboration. C'est souvent le cas, d'ailleurs, avec vous, cette envie d'échanger avec d'autres artistes. Est-ce que c'est ça qui vous plaît dans la manière de bosser? C'est d'avoir comme ça, tout à coup, une espèce de coup de foudre, de relation très intense, très forte sur un morceau, et puis ensuite d'inventer une autre histoire, de créer, d'écrire quelque chose d'autre avec un autre artiste.
C'est complètement ça, surtout qu'on mise vachement sur sur le côté unique de chaque expérience. Et on a de la chance avec Synapson, parce qu'à chaque fois qu'on fait une session studio, je pense à celle de Moussangaré, on en prend plein les yeux, ça se fait en quelques heures. Et on arrive toujours à l'artiste avec qui on collabore a toujours la même vision que nous du morceau, donc tout va très vite, tout est très fluide.
Ouais, c'est fluide, ouais, c'est ça.
C'est incroyable, ouais. Franchement, là, tu as beaucoup de chance.
En général, on dit qu'Alex est plutôt axé sur les mélodies. Paul, toi, tu t'occupes plus de la production. Est-ce que c'est vraiment ça, la répartition des rôles du tandem Synapson? Est-ce que ça a évolué justement avec le fait de faire venir d'autres intervenants?
Disons que c'est là tu viens de citer nos points forts respectifs, mais après
il y en a plein d'autres.
On a appris l'un de l'autre, tu l'as dit en début d'interview, le groupe a 10 ans maintenant, donc c'est franchement, on calcule pas qui fait quoi. L'important, c'est qu'à la fin, on retrouve notre patte.
Moi, j'ai quand même une question. Qui déniche justement tous ces talents qui viennent du monde entier? C'est vous deux? C'est un travail de sourcing? Il y en a un plus qui s'occupe de ça ou...
On a une super équipe et un label qui nous aide et qui est force de proposition.
Parlons-en.
C'est ça, voilà. La plupart du temps, en fait, on propose des featuring à des gens qu'on écoute. Tout à l'heure, tu citais le morceau Yizé avec Alex, on a écouté en boucle. C'était Noël dernier, je crois, son EP. Oumu Sangaré, on joue un remix. qui avait fait fureur à Calvi, etc. Donc on voulait aussi faire notre propre cartouche avec elle, tu vois.
Ouais. Voilà. Alors, le dernier single qui vient d'arriver pour illustrer votre album, c'est Toujours. Alors, avec les featuring du chanteur sénégalais Las et de Team Dup. Alors, je ne prononce pas toujours parfaitement.
Si, c'est parfait.
C'est parfait. Alors, il semble. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même aux antipodes de June Mayamay. Et moi, j'y vois pourtant un fil conducteur, c'est-à-dire une fidélité à ce que vous produisez depuis le début. Est-ce que c'est une question essentielle pour vous? C'est un débat récurrent quand vous produisez, justement, de rester à la fois fidèle à des histoire de revenir comme ça, d'avoir des artistes qui vont, qui viennent. Comment ça se passe?
Alors, on voulait revenir un petit peu à nos premiers amours, notamment donc toute cette influence, mais on voulait en proposer une version 2.0. Et puis, on n'est pas obligé forcément d'apporter ce côté un peu musique du monde par le featuring, mais plus par la musique,
par la compo, bien sûr.
Voilà.
Bah, bien sûr.
Et du coup, d'amener un artiste français à chanter dessus. Et honnêtement, quand on a fait ce morceau-là, on a tout de suite pensé à Team Dup.
Eh bien, les garçons, on parlait de Global Music. Hein, évidemment, votre album marqué par ce volume 1 qui laisse entendre qu'il y aura une suite. Alors, est-ce que vous avez produit assez de titres pour préparer un deuxième album? Est-ce qu'il faut s'attendre à des remixes? Il faut s'attendre à quoi?
Non, mais en fait, si tu veux, ça fait presque 2 ans qu'on mûrit cette idée-là de Global Music. Et effectivement, il y a encore des maquettes qu'on n'a pas pu terminer à cause de cette année un peu exceptionnelle là pour nous tous. Et du coup, voilà, je pense qu'il y aura un volume 2. Voilà, alors il n'est pas fini, mais il y a déjà des tracks dans les tuyaux.
Alors, les Synapsons, c'est aussi un tandem qu'on a connu pour de la deep house. Est-ce que vous avez tourné la page de ce genre, de cette esthétique musicale, alors, ou alors est-ce qu'il faut s'attendre à des petites surprises?
Eh ben, écoute, on y revient un peu puisque les morceaux les plus deep de l'album, c'est Iluna Bara, donc qui veut dire coucher de soleil en basque, et également Super Sonnerie, qui est un morceau qu'on avait fait en partenariat avec Audemars Piguet, et qui sont les morceaux les plus deep, entre guillemets, qui nous fait on revient un petit peu à ce qu'on écoutait à l'époque, Daniel Stenberg, Nico Stojan, etc. Et on a une envie quand même de se réimprégner de tout
mais
ça.
Mais vous avez toujours joué entre les deux, donc là maintenant qu'il y a eu un album vraiment définitivement imprégné de culture du monde, ça serait pas mal de nous faire soit une petite surprise avec des remixes ou alors un petit EP 100% deep house, quoi.
Bah, tu lis dans les cartes, Antoine.
C'est pour ça qu'il va y avoir il n'y en aura pas autant que la plus grande discothèque du monde, mais il risque d'y avoir quelques volumes.
Bah, tu nous en vas rassurer. Alors, cet album, c'est le fruit de vos explorations, hein, de vos rencontres. Alors, petit quiz avant le mix, on va voir quel voyage vous ont le plus marqué. Votre meilleur voyage, celui que vous n'aviez pas, vraiment, celui dont vous n'aviez pas envie de revenir.
On essaie de répondre en même temps.
Ouais.
Allez, 1, 2, 3,
Tahiti. Ah, très bien. Le voyage le plus fatigant, celui où vous avez le plus bougé. 1, 2, 3.
Nouvelle-Calédonie.
Ah ouais?
Ouais, moi j'étais fatigué quand même, 23 heures d'avion.
Oh, t'es chaud, attends.
Non, moi tu sais quoi, Alex. Je vais te dire, la tournée dans les Alpes qu'on a fait, Greg, où on a fait genre une date par jour avec 4 heures de voiture à chaque fois.
Ça, moi, c'était fatigant. Moi j'étais monté dans votre tourbus, ça m'avait impressionné.
Ah ouais, le tourbus.
Alors, le voyage, une fois sur place, où vous vous êtes dit pourquoi on est venu déjà, c'est plus beau sur Google. 1, 2, 3.
Thessalonique. Ouais, j'irais parce qu'on est arrivé, le pays était en crise, tout fermé, on s'est demandé ce qu'on foutait là.
En Grèce. Et alors, le voyage pour lequel vous étiez moyennement motivé, mais qui s'est transformé en une expérience inoubliable.
Alors ça, je vais faire une réponse un peu générique, mais ça arrive très souvent, tu sais, c'est comme les soirées où t'es pas trop motivé. Et en fait, c'est la folie, tu vois, c'est les meilleurs. Ben là, alors, c'est pareil, souvent, il y a des endroits qu'on connaissait pas, ou alors on doit partir un peu loin, alors qu'on rentre de quelques grosses dates françaises où on est fatigué. Et en fait, c'est toujours les meilleurs.
Janvier 2018, Antoine Baduel reçoit Sophie Tucker.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le duo new-yorkais Sophie Tucker. Il signe un nouveau single, Best Friends, qui est la synchro, la bande originale de la pub Apple pour l'iPhone 10. C'est un équilibre très intéressant entre un son plutôt house, plutôt pop, des sonorités aussi ensoleillées, latines. Les new-yorkais qui sont très hype, hein, New York, hein, je le précise, qui livre actuellement Best Friends, un nouveau single repris par Apple pour sa dernière campagne de publicité. Sophie et Tucker, alias Sophie Tucker, sont mes invités de la Power sur Radio FG. Sophie and Tucker, good evening, bienvenue.
Hi.
Hello.
Hi, thanks for having us.
Merci de vous inviter, mais c'est un plaisir en tous les cas de vous avoir avec nous, toujours un plaisir parce que c'est pas la première fois. Quel chemin parcouru depuis toutes ces années, on vous a rencontré sur FG il y a déjà longtemps puisque vous êtes venu défendre Drinky, puis ensuite il y a eu Move. Quel chemin en fait depuis votre rencontre, c'était à l'université. La preuve, vous étiez il y a pas très longtemps dans le show de Jimmy Fallon, star de la télé américaine, et vous sembliez absolument ravi. Comment vous observez tout ce qui vous arrive en ce moment?
Well, it's only been two and a half years.
Bah, ça fait quoi? Juste 2 ans et demi et je crois qu'on a un peu de mal à s'y faire. Mais on est super content de tout ce qui nous arrive.
Tu sais, on voyage énormément, on joue un peu partout, donc on n'a pas vraiment l'occasion de se poser, de regarder les choses en arrière. On est toujours projeté vers l'avant parce qu'on a vraiment envie que cette aventure continue. Donc c'est génial et en même temps, c'est vrai qu'on ne prend pas trop la mesure de tout ce qui se passe.
Alors, je note que déjà à l'époque, votre single Move avait servi de synchro pour la pub Apple. La marque vous a à nouveau choisi pour la campagne de l'iPhone 10 en prenant d'ailleurs Best Friends en bande son. Alors qu'est-ce qui leur plaît tant d'après vous, chez vous, dans votre travail créatif?
Who knows?
I don't know.
So Drinky was the first song we ever put out and they put that on a commercial which really...
Bah, tu sais, en fait, Drinky, c'était le premier single qu'on sortait. Ils l'ont utilisé pour leur publicité. Et c'est vrai que ça a été un vrai booster pour notre carrière. Et puis, suite à cela, le directeur musical d'Apple nous avait dit « On reste en contact ». Alors, on lui a envoyé le nouveau single. Et franchement, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils aiment autant Best Friends. Du coup, ça a vraiment changé nos plans parce qu'il a fallu tout simplement sortir le single au même moment que la sortie du nouvel iPhone.
À l'inverse de vos précédents titres, ce Best Friends que vous venez de sortir est moins tropical, tout en restant joyeux, solaire. Mais j'ai l'impression qu'il a une logique un peu plus club, un peu plus dance floor. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous aviez des envies un peu plus underground?
I think we just like to make music that we love.
Bah, en fait, on cherchait surtout à faire de la musique qu'on aime. Et c'est vrai qu'on peut écouter de la musique portugaise. On aime aussi une musique plus dance floor, parfois underground ou expérimentale, ou à l'inverse, carrément pop. Donc, je crois que notre musique est à la croisée de tout ça. On fait les choses comme on les ressent. Et Best Friends, c'est une facette de notre personnalité, comme Drinky en était une autre. C'est juste la musique qu'on aime.
Je crois que vous avez trouvé le parfait accord, hein, entre la dance, la house, et puis ce côté un peu pop, indie pop, même je devrais dire, ces sonorités latines, ensoleillées. Tout ça, d'ailleurs, avec beaucoup d'instruments, percus, guitare. Est-ce que c'est justement important pour vous, pour jouer votre morceau, ce côté instrumental et ce côté instrument?
Yeah, I mean, I think the live element just gives it that human feel, and we really like the raw sound.
Oui, bien sûr. Ce sont ces éléments live qui rendent humain notre musique. On aime le son brut, imparfait, comme un instrument joué par un humain qui est imparfait, et donc tu fais des fautes, et ça rajoute un peu d'humanité à travers les instruments, en fait. Et on adore transposer ça dans le contexte des musiques électroniques, de la dance music. Et puis surtout, on adore jouer sur scène.
Alors, faut pas oublier les featuring hein, autour de ces singles, les sœurs Nervo qu'on connaît bien, qui sont des copines d'ailleurs de Nox, ou encore Aliza Weno. Pourquoi eux et pourquoi s'entourer d'autant de monde pour une production?
We were just surrounding ourselves with our friends. This song we made.
Bah, disons qu'on s'est vraiment entouré de nos amis. Best Friends, c'est une chanson qu'on a faite pour tout dire dans un garage en Floride. Sophie et moi, on traînait ensemble. Elle était au téléphone avec sa meilleure amie. Moi, j'étais de mon côté travaillant sur la base d'un morceau. Et comme ça parlait d'amis, on s'est dit, bah, appelons nos amis justement, donc les sœurs Nervo, Alissa, bien évidemment nos potes de Nox de New York. On leur a dit, bah, venez faire un couplet sur notre chanson, on voulait qu'elle parle d'amitié justement. Et donc voilà, on s'est vraiment bien marré, ça a été aussi simple que ça.
Alors, vous recevoir sans parler aussi de votre dress code, de votre look, ce serait une faute professionnelle. Vos clips sont aussi très étudiés, très colorés. Quel rapport vous avez avec la mode, avec votre image? Est-ce que c'est quelque chose justement qui mobilise autant votre travail artistique que votre musique?
C'est aussi quelque chose qu'on aime.
In a different way than we love music. Yeah, I mean, it's just like...
I think we just have fun with it, like our music.
Bah, c'est un moyen de nous amuser, comme la musique. Bon, c'est bien sûr un moyen d'exprimer qui on est, parfois d'être un peu ridicule aussi. Une façon de ne pas trop nous prendre au sérieux. Et puis, c'est aussi avoir ce petit truc en plus qui rajoute de l'excitation au quotidien.
Et maintenant, je comprends beaucoup mieux l'amitié avec les sœurs Nervo. Now I understand much better your friendship with the Nervo sisters.
Exactly.
Right? Yeah. Mim and Mim.
C'est Mim et moi, on est vraiment comme des jumeaux.
Of course.
That's right. You got the same hairdresser. Vous avez le même coiffeur. C'est ça l'histoire.
Oui, c'est vrai, elle m'a montré comment le faire un jour.
Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle nous inspire.
Maintenant, on connaît tous les coulisses, en tous les cas. Now we know everything about the backstage. Conversations. Une question à propos de ce truc qui avait fait votre particularité, le Tree Book, un instrument qui vous accompagne partout, que vous avez vous-même inventé. D'ailleurs, il a disparu dans le clip de Best Friends. Est-ce que vous l'avez détruit?
Oh, we're always...
Non, pas du tout. Il est toujours avec nous.
Yeah.
Really?
Yeah. We're gonna...
It wouldn't fit in here.
Non, il rentrerait pas dans toutes les pièces. Bon, ceci dit, c'est une chose très importante dans nos concerts. C'est vrai que c'est nous qui l'avons conçu. Il est un peu comme le troisième membre du groupe finalement.
Sophie Tucker, le duo américain qui apporte toujours beaucoup de soleil dans ses productions, beaucoup d'indie pop, beaucoup de house music également. Ils sont new-yorkais et le dernier single Best Friends en est un bel exemple. Plus d'infos sur sophietucker.com et sur radiofg.com. Merci en tous les cas. Thank you so much. It was a pleasure.
Thanks for having us.
Thank
you for the support always.
Merci beaucoup. Thank you so much.
Thank you.
Février 2022. Antoine Baduel reçoit Bragbot.
Happy Hour FG, bienvenue à toutes et à tous. Tous les soirs, des stars, des mixlaves et des cadeaux. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bragbot et Irfan. Bragbot et Irfan qui font danser le monde entier depuis plus de 10 ans, notamment avec un tube planétaire qu'on aime toujours autant, Baby I'm Yours. Baby I'm Yours qui faisait caprice ce soir. Un groove disco qui ne l'a jamais quitté, une amitié tout aussi fidèle avec Irfan. Bragbot nous le prouve une nouvelle fois avec ce nouveau single, Remedy. Bragbot et Irfan sont mes invités ce soir de l'Happy Hour. Bonsoir les garçons, comment ça va?
Ça va super et toi Antoine?
Ben, ça va bien, je suis ravi de vous accueillir en tous les cas. Bonsoir. Pour célébrer en tous les cas la sortie de Remedy. Pour commencer, on va revenir un peu sur le nom de ce titre, Remedy, que vous venez de sortir. Vous l'avez conçu, hein, j'imagine, un peu comme une sorte d'antidote feel good à cette période morose, un remède à la déprime. C'était quoi l'état d'esprit?
C'est un peu ça, effectivement. Ouais, c'est un peu une sorte de référence aussi à toute cette sorte de pandémie qu'on a vécu tous ensemble. Et voilà, c'est un
tous ensemble, c'est-à-dire que vous étiez beaucoup en studio tous les deux pendant la pandémie. Vous étiez vraiment.
Enfin, je veux dire tous ensemble de chacun de notre côté, en fait.
Non, mais vous auriez pu vous isoler. Il y a beaucoup de producteurs qui l'ont fait. C'est pour ça que je vous posais la question.
On s'est isolé, et ensuite on s'est retrouvé deux mois plus tard pour travailler. Ouais, c'était une période assez inédite, on va dire. Mais on en a fait le meilleur, on espère.
Alors, on retrouve cette patte, hein, cette signature qu'on connaît dès les premières notes, à savoir des sonorités plutôt disco, funky, agrémentées de la voix, de ta voix, Irfan. Depuis le temps que vous produisez ensemble, comment ça se passe? Est-ce que votre musique, elle sort intuitivement, naturellement? Ça se passe comment?
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recette. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas à travailler ensemble. C'est que c'est toujours un peu différent et que c'est toujours un peu comme un jeu, quoi, en fait.
Exactement, je pense qu'on est assez bon pour rajouter des choses, des éléments chacun.
Mais les morceaux, ils commencent comment? Je veux dire, c'est plutôt toi Thibaut, donc Bragbot, qui fait plutôt une compo sur laquelle Irfan, tu dis bah, je vais le sentir, je vais poser ma voix, ou à l'inverse, c'est toi qui aurais des lyriques en tête et qui pose une top line, et derrière toi Thibaut qui la met en musique? Ça se passe comment?
Mais en général, c'est quand même plus, effectivement, ça part d'un instru au départ, et puis après on essaie, si ça nous plaît, de le continuer, et puis de caler des voix dessus. Mais il n'y a pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de recettes. Ça peut être aussi l'inverse par moment donné.
C'est vrai.
Alors c'est marrant parce que vous êtes à rebours des plateformes de streaming, c'est-à-dire un duo qui n'est pas dans la logique de sortir un single tous les 15 jours parce que le marketing de la maison de disques a dit que c'était mieux de faire comme ça pour avoir plus de fanbase et de followers. Mais au contraire, quelque chose de... On sent vraiment un duo qui travaille beaucoup au feeling, à l'instinct, à l'envie. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que pour vous, justement, la recette, c'est aussi de pas avoir de contraintes et de vous retrouver quand vous le sentez, quand vous avez envie de faire des choses?
Voilà. Je pense qu'on a la chance d'avoir un label et une maison de disques qui nous suivent. Qui nous font confiance et qui nous mettent pas vraiment la pression pour travailler, donc ça c'est quand même vraiment très agréable. On a une liberté de faire ce qu'on veut et en même temps aussi un soutien qui est quand même vraiment, vraiment très très présent, donc
infaillible.
Nos invités ce soir de la Happy Hour, Bragbot et Irfan, à l'occasion de la sortie de Remedy, des albums, hein, By Your Side jusqu'à Still Waters, des hits aussi Another You jusqu'à Be Mine Tonight. Tout votre duo n'est que perfection et bienveillance. Alors il faut le dire quand même, faire une musique si cool, c'est un peu comme les comédies au cinéma, ça a l'air super évident, mais en fait c'est hyper difficile à faire, j'imagine. C'est-à-dire que pour avoir ce rendu, ce sentiment de feel goodness, comme on dirait, ça se passe comment? C'est des heures de travail, de prise de tête, ou alors les choses viennent très spontanément?
Bah, je dirais pas que c'est vraiment du... Enfin nous, on n'a jamais vu ça vraiment comme du travail ou de la prise de tête, parce qu'on adore
de la passion.
Ça. Mais c'est vrai que parfois, en fait, on est très patient sur les morceaux.
Ouais, c'est complètement variable. Il y a des choses qu'on arrive à trouver en 3 minutes, comme il y a des choses sur lesquelles on galère pendant des mois, voire des années, parce qu'il y a plein de morceaux qu'on n'a toujours pas finis, auxquels on croit, je pense, tous les deux. Et ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que quand ça coule de source, il y a un truc un peu magique, quoi.
Alors je vous demande ça aussi parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a une vraie vague autour de la disco house. Donc vous qui avez toujours aussi produit une house un peu discoisée comme ça, Beaucoup s'y sont mis, avec plus ou moins de talent. Votre génie, c'est aussi d'importer tout ça en le modernisant. Comparé à la période Baby I'm Yours, par exemple, on sent que, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une quantité de releases sur ce son qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que c'est une chose dont vous tenez compte, vous, dans vos productions, justement, pour vous démarquer? Ou au contraire, vous laissez complètement faire, vous étonnez pas et vous considérez pas cette vague disco house qui arrive en ce moment?
On en fait abstraction tout en continuant à faire la musique qu'on aime. Après, pour répondre aussi à une question que tu posais tout à l'heure, on a la chance justement de pas avoir énormément de pression, ce qui veut dire que la seule pression qu'on s'inflige entre guillemets, c'est de sortir des choses quand on en est complètement satisfait. Et c'est vrai qu'on est tous les deux perfectionnistes, et du coup ça veut dire peut-être sortir un peu moins de choses, mais des choses dont on est vraiment content.
Alors votre musique, vos titres, c'est toujours comme la bande son un peu de l'été, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas, qui nous emmène à New York, à Détroit, à LA. Elles sont puisées de où justement vos racines musicales?
C'est quand même très très variable, mais ça vient quand même beaucoup des années 70-80. On a tous les deux été bercés là-dedans un petit peu par la Motown, Stax et toute la
Sam Records, californienne. Tout le disco qui est venu après aussi. Ouais.
Il y a tellement de choses dans cette période-là qui nous intéressent. Puis après, effectivement, il y a aussi toute la French Touch qui nous a fasciné à l'époque, à la fin des années 90, avec Daft Punk, Étienne de Crécy.
Qui nous a fait comprendre que c'était faisable, en fait, que c'était possible et qu'on pouvait être deux petits Français et faire de la musique qui parlait un peu à tout le monde.
Alors parlons-en de ces petits Français qui font de la musique. Ça fait 6 ans maintenant que le successeur de Steel Waters est attendu. Quand même, ça paraît pas. Donc après Remedy, est-ce qu'il faut s'attendre à une petite thérapie en 2022 avec un album?
Alors, on n'a pas prévu un album, mais on a Maxi qui sort le mois prochain avec 3 autres morceaux qui vont rejoindre Remedy.
Qui vont être dans la même esthétique, qui vont...
Y a un peu de tout, il y a un slow, il y a un morceau un peu plus disco, il y a un morceau presque instrumental. Donc il y a
plusieurs facettes. Un petit EP, quoi.
Un petit EP, voilà.
Un petit panel, voilà.
Mais on,